France Inter. Bonjour, soyez les bienvenus dans le débat de midi sur France Inter. En cette période estivale, les festivals battent leur plein. Les familles s'entassent dans les parcs d'attractions et dans la foule, une angoisse revient souvent. Mais où est-il encore passé? Faites-vous partie de ces parents qui sont nombreux à se demander s'il ne serait pas plus simple de géolocaliser leur progéniture histoire de se rassurer. L'industrie numérique a en tout cas bien saisi cette inquiétude. Les outils de géolocalisation pour enfants se multiplient entre applications pour smartphones, montres connectées, dernier cri. L'opérateur Bouygues Télécom débarque d'ailleurs avec le lancement de sa Kids Watch dans un marché déjà bien encombré qui pèse plus de 10 milliards de dollars au niveau mondial. Le message est clair, ces outils ne sont pas là pour espionner, mais pour protéger. Selon une étude Ipsos pour l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, près d'un tiers des parents français utiliseraient un outil de géolocalisation pour suivre leur enfant. Ces dispositifs vont même jusqu'à proposer un service de géo-repérage, une sorte de gardiennage virtuel, si vous voulez, on va en parler. Si votre enfant sort du périmètre autorisé, une alerte vous est envoyée. Ces outils s'apparentent-ils à une sorte de laisse numérique ou est-ce un moyen pratique, rassurant et dissuasif pour mieux accompagner nos enfants vers l'autonomie? Que raconte ce besoin de surveillance sur notre époque? La géolocalisation de nos enfants offre-t-elle moins de liberté ou plus d'autonomie? On en débat jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi, Saskia Deville.
Et chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez participer bien sûr à ce débat. Réagissez, envoyez-nous vos messages ou vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000, 01 45 24 7000. Et pour en parler ce matin, en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre débat de midi Justine Atlan, directrice générale de l'association e-enfance. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour aussi à Florent Delaval, chef du service de l'expertise technologique de la CNIL. La Commission nationale de l'informatique et des libertés. Bonjour.
Bonjour.
Florent. Et puis au téléphone, le psychiatre spécialisé en pédopsychiatrie, Thierry Delcourt, qui reçoit, je pense, beaucoup de parents préoccupés par ce sujet. Bonjour Thierry Delcourt.
Bonjour, bonjour.
Et au téléphone également, le sociologue Yann Brunat, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, à l'origine de cette enquête, usage et enjeux de la géolocalisation, dans le contexte de la surveillance parentale. Bonjour à vous aussi. Et bienvenue Yann Brunat.
Bonjour, merci.
Et voilà, vous m'entendez. Alors je vais commencer avec cette question toute simple. À tous les quatre, faut-il pister, faut-il traquer nos enfants? Je vais commencer avec vous, Justine Atlan. La question vous fait déjà sourire.
Oui. Faut-il pister, traquer nos enfants? Je trouve que c'est assez contradictoire avec l'éducation, justement. Et surtout, ça manifeste finalement un manque de confiance dans ce qu'on a pu transmettre à son enfant en termes de capacité lui-même à gérer un certain nombre de choses. Alors, un enfant reste un mineur. Et évidemment, en tant qu'adulte et parent, on a des devoirs d'éducation, de protection, bien évidemment, mais qui vont s'amenuiser finalement dans le chemin vers la majorité, en parallèle avec des capacités de l'enfant à identifier lui-même les risques et savoir les gérer. Donc c'est vrai que voilà, ça me paraît un peu contradictoire avec tout ce programme éducatif.
Florent Delaval.
Il ne s'agit pas pour moi de dire s'il faut ou pas le faire. Ce qu'il faut en revanche prendre en compte, c'est que cette question-là, la manière dont vous l'amenez en tant que parent ou dont vous la subissez en tant qu'enfant, tout ça fait partie d'un tout, à la fois un tout éducatif, un tout dans la relation familiale, mais aussi ça fait partie de l'éducation aux outils numériques en général. Et donc à ce titre-là, il faut quand même prendre en compte un certain nombre de choses dont on reparlera.
Thierry Delcourt.
Oui, alors de mon côté, étant pédopsychiatre, je m'adresse forcément à des parents et à des enfants en souffrance ou en difficulté. Et forcément, les questions se posent différemment. Hein. D'un côté, il y a une société qui est du côté du principe de précaution et de sécurité, qui vient renforcer l'angoisse de certains parents et qui renforce aussi l'angoisse de certains enfants qui sont soit phobiques, soit des enfants différents en situation d'autisme ou des choses comme ça, ou qui ont vécu déjà des situations traumatiques ou de harcèlement ou d'autres. Et donc, dans ces situations, effectivement, la géolocalisation peut avoir un effet rassurant des deux côtés, hein, et pour l'enfant et pour le parent. Et en même temps, on rentre forcément dans des excès d'absence de confiance, comme disait Justine Atlan, et d'absence d'expérience de l'enfant et de confiance dans son capacité d'expérience et de vie.
Et enfin, Yann Brunat, j'ai envie de vous entendre sur cette question.
Oui, tout à fait. Alors, je suis bien d'accord sur la partie confiance. Je pense que ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce que le chercheur Olivier Haïm appelle une frénésie surveillancielle, et la géolocalisation n'est qu'une forme de surveillance qui s'imbrique dans d'autres formes de surveillance qui sont aujourd'hui assez massivement utilisées, non seulement dans le contexte intrafamilial, parent-enfant, mais également entre les ados eux-mêmes. Et ça c'est un point important parce que, vous voyez, la géolocalisation, c'est une technologie qui ici s'assimile à de la surveillance, alors pour un principe de précaution ou pour vérifier quelque chose, pour vérifier par exemple une conformité entre une localisation prévue et une localisation réelle, entre guillemets, qui est celle indiquée sur l'écran. Mais si on prend en compte, je sais pas, la vérification d'un historique internet, la lecture des messages de l'enfant, ou encore d'autres formes de vérification de présence en ligne, eh bien on comprend que cette forme de surveillance s'inscrit finalement dans quelque chose qui est beaucoup plus global.
Je vois qu'elle discute avec plusieurs amis. Non, c'est juste, je pense, de la paranoïa aiguë depuis tout le temps. Mais je l'ai su tout de suite que quand j'aurai des enfants, je serai ultra protecteur. Et aujourd'hui, les outils me permettent de l'être à ma convenance.
Voilà, ici un témoignage de parents qui donc traque son enfant. A-t-on une idée, d'où vient cet essor de la surveillance intrafamiliale? Est-ce récent, Justine Atlan? Avez-vous une idée?
Je pense que le besoin de surveillance n'est pas récente du tout. Elle concerne l'intrafamilial, peut-être plus d'ailleurs dans les couples historiquement qu'avec les enfants. Après, effectivement, comme on l'a dit, aujourd'hui les outils le permettent. Donc évidemment, on saute le pas d'en avoir envie, mais peut-être de pas se l'autoriser. Ça existe, c'est possible, et ça devient même un marché manifestement. Et puis parallèlement, effectivement, mais comme Thierry Delcourt l'a expliqué et l'expliquera mieux que moi, on est dans une société qui pense qu'on arrive à un monde sans risque, en tout cas qui a cette fantasme là et cet idéal, ce qui évidemment est le contraire de la vie. Et donc qui a ce fantasme que cet outil de surveillance permettrait de protéger à 100% et d'éviter tous les risques inhérents à la vie. Et c'est là où, on le sait, ça va plutôt créer plus d'anxiété que le rassurer.
Thierry Delcourt, vous avez, senti auprès des parents des enfants que vous recevez un engouement peut-être récent, plus ou moins récent, pour ce genre de thématique?
Alors, on a tendance à dire, effectivement, le confinement a été un moment de bascule, et je le pense, effectivement, le temps de cocooning, même si ça a été un cocooning douloureux pour certains, a été aussi quelque chose de rassurant pour tout le monde, et en même temps, une difficulté. Combien d'enfants ont présenté des phobies scolaires, justement, après ce confinement, et combien de parents ont eu du mal à finalement, dans un climat en même temps délétère d'angoisse, il peut toujours arriver quelque chose. D'autant que l'information au quotidien, en permanence, sur les drames, sur les attaques, sur la maladie, sur ceci, sur la guerre, sur l'écologie, tout ça crée ce climat et accentue ce climat. Et finalement, il serait si bon de pouvoir se refermer sur soi, hein. Et en même temps, ce que je perçois dans les situations familiales qui sont de plus en plus complexes, hein, c'est que dans le rythme de travail, dans le rythme de vie des parents, et notamment dans les familles monoparentales, cette surveillance, elle est aussi quelque chose qui permet finalement de répondre à un manque, à quelque chose qui est défaillant, non pas parce que le parent est défaillant, mais parce que le rythme de vie est défaillant.
Et je vais rebondir ce que vous avez dit un petit peu plus tôt, tous les deux, effectivement, par rapport à ce risque zéro. On a un premier témoignage ici d'une auditrice, Sabine, qui nous a laissé une note vocale sur WhatsApp. Écoutez.
Tracer les enfants, non. Vraiment non. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est de les construire dans une relation de confiance, de dialogue, de bienveillance avec leurs parents. Ça me semble beaucoup plus efficace que tous les gadgets du monde qui nous parient que le risque zéro existe. Nous savons bien qu'il n'existe pas et nous savons bien qu'il faut avoir du courage.
Faut-il avoir du courage? Je vous vois sourire avec nous ce matin, Justine Atlan. Ça vous fait sourire pour quelle raison?
C'est le terme de courage. C'est courageux d'être parent, je pense, effectivement.
Oh, déjà
c'est courageux de s'engager dans ce chemin avec ses enfants. Non, non, ce qui est intéressant, c'est que ça va dans le sens de ce qu'on était en train, effectivement, en train de dire. En même temps, on voit bien qu'il y a un besoin de recréer du lien et de la proximité, en fait. Comme disait Thierry Delcourt, c'est vrai qu'il y a des rythmes aujourd'hui, mais on est face à ce dilemme absolu avec le numérique, à la fois une faculté de rapprochement et en même temps un isolement et du coup un éloignement de tous, y compris dans la sphère familiale, des espèces de petites bulles que chacun a dans sa vie numérique. On est en présence, mais on est tous avec des autres qui sont ailleurs. Et finalement, on va recréer du lien à travers cette trace de il est où, je suis où. Et on voit des familles, effectivement, qui n'ont pas forcément cette démarche de surveillance à tout prix, mais comme l'outil existe, qui vont créer des réflexes, aller vérifier, ah au fait, c'est vrai, il est où en ce moment, je vais voir, voilà. Il n'y a pas une intention particulière, mais comme c'est possible, je le fais. Mais on voit bien que ça finit par rentrer quand même dans une logique qui va créer un besoin, qui va créer des questionnements, mais pourquoi il est où, elle est là, qu'est-ce qu'elle y fait, et donc il peut quand même après un peu, alors sur des enfants plus grands, hein, des adolescents un peu plus grands, poser des problèmes quand même par rapport effectivement à leur émancipation et la création d'une intimité, et on sait que les adolescents en ont besoin aussi. Mais évidemment, on pourra d'autant plus laisser son ado s'épanouir d'une façon autonome qu'on aura créé, évidemment, dans l'enfance des bases, des structures sur lesquelles on sait qu'il pourra s'appuyer pour identifier des risques, savoir les gérer. Mais c'est vrai qu'on a besoin, nous, beaucoup de rassurer les parents quand on les rencontre sur le questionnement de « mais à quoi ça vous sert exactement de savoir où votre enfant est ?» Concrètement, rationnellement, quel besoin ça vient remplir. Et souvent, ils prennent conscience du fait qu'en fait, malheureusement, si un risque va être rencontré par l'enfant aussi loin, savoir où il est ne va finalement aider à rien ponctuellement à ce moment-là pour pouvoir aider l'enfant à confronter un risque, l'empêcher qu'il advienne. Et que donc voilà, tout ça, c'est quand même beaucoup effectivement du fantasme plus qu'une réalité. Il faut avoir confiance, en tout cas, quand on le fait.
Est-ce que, Florent Delaval, le problème vient vraiment de l'outil ou plutôt de la manière dont on l'utilise ?
Alors, il y a les deux. Le premier, sur la manière dont on l'utilise, moi je voudrais revenir sur le fait que les parents qui le font, effectivement, le font parce qu'ils le peuvent, le font parce que ça répond à un besoin. Paradoxalement,
ou parce qu'ils n'ont pas le choix ?
Alors, on peut toujours dire ça, mais l'outil à un moment n'existait pas, donc on se posait la question de comment on faisait à l'époque. Je voudrais simplement revenir sur un paradoxe quand même, qui est que le fait d'avoir un outil qui vous permet de dire où est votre enfant par exemple, ou qui permet de surveiller un certain nombre de ses activités, finalement ça peut aussi conduire à accroître votre propre anxiété. Là où vous cherchiez à vous sécuriser, en fait vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez avoir des signaux qui sont non signifiants entre guillemets, ou des erreurs, ou des choses comme ça qui vont tout de suite éveiller votre attention, voire même vous mettre en stress, là où ce stress n'aurait pas existé si finalement vous faisiez totalement confiance à votre enfant qui est avec ses amis au parc. Bon, les situations ne sont pas toujours aussi simples, mais il y a ça. Ensuite, dans l'outil lui-même, je pense qu'une chose qu'il faut bien prendre en compte, je pense, quand on recourt à ce type de technologie, que ce soit des montres connectées, des téléphones ou des dispositifs de géolocalisation, des AirTags, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas totalement tout seul. C'est-à-dire, on parlait beaucoup de relations intrafamiliales et de la manière dont la relation avec l'enfant. En fait, quand vous utilisez ces outils, il faut avoir un petit peu conscience que dans la plupart des cas, vous êtes en train aussi de fournir des données, de fournir des traces numériques à d'autres personnes qui peuvent être les fournisseurs de solutions, des partenaires, qui vont s'en servir la plupart du temps pour faire de la publicité. Mais d'autres risques existent, hein, espionnage, etc. C'est pas les premiers risques, mais en fait, il faut avoir conscience quand même, on est en train de partager quelque chose avec d'autres que nous quand on fait ça.
Et ça, on va en parler effectivement de failles de sécurité éventuelles sur ces logiciels de géolocalisation. Ici, on a des auditeurs, des auditrices qui réagissent sur le WhatsApp de l'émission. J'ai souvent hésité moi-même à installer ce genre de tracker uniquement pour la sécurité, la hantise d'un enlèvement. Je n'ai pas franchi le pas justement pour ne pas devenir parano. Ça, c'est Émilie qui nous témoigne. Pascal nous dit, comme certains parents sont vissés à leur téléphone et ont de moins en moins d'attention pour leur enfant, cette solution est parfaite pour renforcer leur addiction au téléphone. Yann Bruna, vous avez donc mené cette enquête, hein, je le disais, à ce sujet. Qu'est-ce que vous avez-vous constaté comme grande ligne ? Qu'est-ce qui se dégage justement de ce grand sujet de la géolocalisation ?
Alors, parmi les résultats, je dirais, les plus notables, alors, un premier pour rebondir effectivement sur ce qui vient d'être dit concernant la non-neutralité des plateformes. Je pense que c'est un sujet important parce que si vous allez sur la page internet d'une application qui s'appelle Family Link, qui est une des nombreuses applications, eh bien, vous lisez, je cite, « Donnez à vos enfants de bonnes habitudes numériques, veillez à la sécurité de votre famille, de telle sorte qu'on assiste à un certain façonnage de l'exercice de la parentalité par les GAFAM, entre autres, c'est-à-dire que le bon parent serait un parent inquiet qui aurait besoin de données pour colmater au moins en partie ses inquiétudes. Ce qui peut amener à une certaine injonction, je dirais, à la surveillance, sous couvert d'un argument sécuritaire, voire d'une forme de bienveillance, parce que là, on touche un petit peu au cœur, c'est-à-dire, oui, je fais ça pour ton bien, pour ta sécurité, donc c'est des nouvelles injonctions à surveiller ses pairs et ses proches, qui découlent sur des charges mentales qui peuvent affecter diversement des individus concernés, et parfois les affecter doublement. Par exemple, des adolescents qui doivent penser à supprimer leur localisation géographique pour ne pas être repérés par leurs pères, par leurs amis, parfois même par leurs parents lorsqu'ils le peuvent, parce qu'avec ces outils, ce n'est pas toujours évident. Et en même temps, ils sont enjoints à conserver une trace de la position de certains proches afin de garder dans le temps long une preuve de leur localisation. À noter dans mon enquête que j'ai pu montrer notamment que la surveillance par géolocalisation était régulièrement, et j'ai des exemples à vous fournir si besoin, une demande de la part des individus concernés. Ce n'était pas exclusivement une contrainte. La géolocalisation peut être attendue, voire nécessaire dans des contextes précis.
Et ça, on va en parler évidemment dans la suite de ce débat sur France Inter. Les parents font-ils face à une surcharge d'informations et d'injonctions contradictoires sur comment élever les enfants? Les enfants sont-ils toujours d'accord? Accompagnent-ils justement cet outil? On continue à en débattre dans un instant. Juste avant, nous écoutons un extrait du nouvel album de Giorgio Poi, Les Jeux sont faits.
Leccarsi un dito per raccogliere l'ultima.
Les jeux sont faits, extraits du nouvel album de Giorgio Poi, Sketchy, de l'artiste italien Giorgio Poi, sur France Inter.
France Inter, le débat de midi.
Et on est toujours ensemble jusqu'à 12h45 sur France Inter avec nos invités. Justine Atlan, directrice générale de l'association e-enfance. Florent Delaval, chef du service de l'expertise technologique de la CNIL. Thierry Delcourt, psychiatre spécialisé en pédopsychiatrie. Et le sociologue Yann Brunat. Alors faites-vous, vous qui nous écoutez, partie de ces parents qui géolocalisent leurs enfants, ou alors les laissez-vous leur faire leurs propres expériences à l'aveugle, dirait-on. Eh bien, on a ici des témoignages d'invités, car vous pouvez participer, chers auditeurs, chères auditrices, à ce débat en envoyant vos messages et vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Dominique qui nous dit ceci: qu'est-ce qui garantit que l'enfant n'a pas déposé le système quelque part ou ne l'a pas confié à un ami pour pouvoir faire ce qu'il veut? C'est une vraie question, ça. Les enfants sont-ils capables de détourner le système, Florent Delaval, de s'émanciper de cette géolocalisation en quelque sorte imposée par les parents généralement, ou pas que? Et ça, on en parlera avec Yann Brunat.
Alors c'est évident que tout système de surveillance ou tout objet que vous donneriez à votre enfant à cette fin peut être contourné, détourné.
De quelle façon?
Il y a la manière la plus simple, c'est peut-être juste de se débarrasser de l'objet en question, de le mettre à l'endroit où on a envie. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Ensuite, il y a la possibilité, ça c'est pour les plus dégourdis, et je ne veux pas donner des idées, mais d'aller, on peut dire, le terme c'est spoofer, c'est-à-dire d'aller donner une géolocalisation qui n'est pas la bonne dans le logiciel quelque part. Ce qui permet à vos parents de dormir tranquille, donc c'est assez altruiste comme geste, mais par contre, vous, derrière, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est des exemples. Je pense que il y a le risque, de façon, tout dispositif comme ça qui peut servir, que l'enfant peut détourner, il peut être détourné aussi par quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi qu'il faut regarder, c'est-à-dire que on parlait d'enlèvement tout à l'heure.
Et là, on parle de sécurité.
Et là, on parle de sécurité, de protéger ses enfants. Quelqu'un qui est un petit peu conscient que tous les enfants ont des montres connectées et dont le métier, entre guillemets, est d'enlever, ou la passion est d'enlever des enfants, il apprend très vite à faire ce qu'il faut pour que le parent ne s'en aperçoive pas. Donc finalement, on revient à l'illusion de sécurité quelque part, et que ce dispositif ne permet pas de couvrir tous les problèmes.
Yann Brunat, comment les jeunes vivent-ils le fait d'être localisés? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, ils ne sont pas forcément tous contre.
Non, tout à fait. Alors, je vais commencer peut-être par le témoignage d'un garçon de 17 ans qui, lui, m'avait expliqué: moi, ce n'est pas normal que je sois géolocalisé. En revanche, ma petite sœur, elle doit l'être parce qu'elle a 13 ans et parce que c'est une fille. Donc, évidemment, on a le repère de l'âge qui est important, mais il y a une dimension genrée derrière cette acceptation, je dirais, de la géolocalisation. Oui, on est sur une réponse à un besoin de sécurité, et il y a donc ce qui en découle, c'est-à-dire une intériorisation chez plusieurs adolescentes de mes deux enquêtes, d'une certaine forme de vulnérabilité dans l'espace urbain. Je reprends ici le témoignage d'une jeune fille qui fait allusion à un faux aveugle. Alors j'explique, elle dit: quand j'avais 11 ans, quelqu'un m'a pris par l'épaule puis a fait comme s'il était aveugle, et quand il a vu que ma mère n'était pas loin, il a changé son attitude, son comportement. Elle m'a expliqué que c'était un pervers, et depuis, quand je sors seule, elle met la géolocalisation et je me sens rassuré. Voilà, c'est un témoignage parmi d'autres. À noter également que la géolocalisation dans le cercle familial, mais notamment par le lien adelphique entre frères et sœurs, est également l'objet d'une demande. La surveillance d'un proche peut même devenir un certain marqueur attentionnel, pourrait-on dire. Et j'ai quelques données, alors qui ne viennent pas uniquement de mes travaux, mais si je prends une enquête comme celle qui a été commanditée par l'F360, bon, ça concerne les États-Unis, dans cette enquête, il ressort par exemple que 72% des jeunes filles donc d'une même génération, entre une génération Z, pensent que la possibilité d'être géolocalisée par leurs parents ou par leur père joue un rôle positif sur leur bien-être, contre 46% des jeunes garçons. Vous voyez la différence, on a près de 30 points d'écart, 30 points de pourcentage d'écart, c'est quand même assez important. Tandis que pour les adolescents interrogés, c'est le terme sécurité qui vient en premier à l'esprit de 66% d'entre eux lorsque le partage de géolocalisation est activé. Et enfin, lorsqu'elles se rendent à un premier rendez-vous sentimental, amoureux, etc., plus de 78% des filles interrogées expliquent partager leur position géographique avec un père ou une personne de leur famille.
Alors, il y a les filles, comme vous le dites, il y a les garçons aussi. J'avais envie de vous faire entendre ici un extrait de ce micro-trottoir réalisé par Anaé Balista et Ryan Saibi. Ici, Johan qui témoigne, père de 3 enfants.
Moi, par exemple, j'ai 3 enfants. Dû à leur personnalité, je dirais que sur les 3 que j'ai, il y en a un quasiment sûr, je pense que plus tard, je serai obligé de vérifier ce qu'il fait, parce que c'est un petit filou. Il y a un certain type de personnes dont il faut faire attention.
Thierry Delcourt, psychiatre spécialisé en pédopsychiatrie, est-ce que c'est une question de genre? Est-ce que la géolocalisation était liée au genre? Ou bien est-ce qu'on peut avoir autant effectivement ces jeunes femmes qui sont harcelées et ces petits filous qui sont surveillés?
Alors oui, les petits filous, je pense que la question du genre, elle reste centrale, bien sûr, mais je pense que c'est plus par rapport au climat sociétal dégradé où je repense à une mère de famille qui me disait « Je n'écoute plus les informations, sinon je ne laisserai plus mes enfants sortir ». Et elle ne faisait pas de différence entre sa fille et son garçon. Et effectivement, ce risque-là qui est entretenu à la fois dans la réalité, et ce climat dans la réalité, et dans l'imaginaire des parents, et forcément aussi des enfants, qui fait qu'à un moment donné, on a une narration dramatique autour de ce qui peut arriver. Et bien sûr, plus pour les filles, hein, mais moi, ce que je retrouve par rapport aux parents que je reçois, c'est autant les filles que les garçons. Hein.
Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça, parce que...
Justine Atlan.
Oui, parce qu'en fait, ce que ça pointe quand même, au niveau de la société, c'est ce manque de contrôle social, en fait. C'est-à-dire que on en vient à devoir surveiller, effectivement, à distance, bien qu'on surveille pas, en fait, on localise, ce qui est un petit détail de surveillance, parce qu'on sait pas ce qu'il fait, où exactement, etc. Mais parce qu'il n'y a plus de contrôle social, c'est-à-dire que... Avant ou dans des sociétés organisées différemment, finalement l'enfant, l'adolescent, il est vu par d'autres de la société qui prennent le relais d'une forme de l'adulte qui le voit dans la rue. Est-ce que t'as vu un tel? Ah bah oui, il était là il y a 5 minutes. Maintenant il est là. Je les ai vus passer la bande de jeunes, etc. Et là, il y a plus cette surveillance. Elle se fait humainement en fait, activement, et les jeunes le savent. Aujourd'hui, comme effectivement on est plus dans des sociétés à la fois on s'est tous isolés, notamment à cause du numérique, où il y a plus d'anonymat dans certains endroits, etc. Et où il y a des questionnements sur est-ce qu'on a tous le même repère de modèle sociétal et d'éducation et de responsabilité par rapport au collectif et notamment aux jeunes, etc. On a moins confiance dans les autres adultes de la société pour prendre ce relais finalement d'éducation, de contrôle social, et donc on se met en lien direct avec ces outils. Mais je pense que c'est pour moi vraiment le cœur de ces questions de surveillance par les outils. Il est vraiment au cœur de l'absence de contrôle social dans le sens positif du terme, hein, encore une fois, de société structurée par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet auquel il faudra qu'on pallie, parce que sinon on est vraiment dans un fantasme de surveillance qu'on a bien vu là dans tout ce qu'on raconte, qui est que du fantasme en fait, parce qu'à nouveau quand le danger se réalise, l'enfant, on sait juste qu'il est loin, mais on ne sait pas ce qui lui arrive, et effectivement on n'empêche rien d'arriver. Mais voilà, je voulais juste parler de ce terme.
Cet outil remplace quoi? Le dialogue, la confiance,
une société structurée dans laquelle finalement on se sent tous responsables des enfants de la société, et quand ce sont pas les nôtres mais qu'on les voit passer devant nous et qu'on les voit à risque, on peut intervenir, on peut, vous voyez, il y a une espèce de communauté, en fait, dans laquelle on fait tous partie. Et finalement, les enfants sont nos enfants à tous, et nos ados à tous. Et on sait qu'on a tous les mêmes repères de protection, de responsabilité et éventuellement de relais éducatif. Et quand tout ça, c'est un peu délité et qu'on n'a plus cette confiance-là, encore une fois, on ne peut pas se reposer sur ses pères PAIRS quand on est parents, les adultes. Voilà, donc c'est ça, je pense que c'est vraiment, à mon sens, le socle défaillant qui permet effectivement cette hyper surveillance qui ne remplit pas sa fonction.
On va poursuivre ce débat, notamment avec ce message de Chris. Nous sommes dans le futur insupportable décrit par Philippe K. Dick dans ses nouvelles ou dans ses romans, ses Minority Report, littéralement. On va continuer à en parler dans le débat de midi sur ce sujet, la géolocalisation de nos enfants, pour ou contre, plus d'autonomie, moins de liberté. On en débat. Juste avant de poursuivre, eh bien, on écoute Cette vie, titre du troisième album de Clara Luciani, un album personnel écrit et enregistré pendant sa grossesse.
Elle est quand même vraiment bien, cette fille terrienne, à regarder le soir sombrer, s'évanouir dans la Seine. Elle est encore mieux, cette fille, depuis qu'elle a croisé le tien. Et toi, tu n'es pas pas mal. Et si c'est pas
nouveau titre de Clara Luciani, midi 35 sur France Inter. C'est le débat de midi avec notre thème du jour. Faut-il géolocaliser nos enfants ?
Le débat de midi, Saskia Deville, sur France Inter.
Ceci est votre console parentale. Alors ça, c'est l'endroit où se trouve Sarah. Si jamais elle disparaissait, les forces de l'ordre seraient automatiquement averties. Ensuite, tapez sur cette icône juste là pour accéder à son flux optique. On voit ce qu'elle est en train de voir ?
C'est génial !
Et on peut aussi appliquer le contrôle parental. Si jamais elle assiste à un événement qui génère un stress et donc une augmentation de son taux de cortisol, l'implant va estomper ce qui l'aura déclenché.
Wow, d'accord.
C'est juste une option.
Alors fort heureusement, nous n'en sommes pas encore à l'étape de l'implant hein, aujourd'hui, comme dans cet épisode de la série dystopique anglaise Black Mirror, c'était en 2017. Ou alors, je ne sais pas, je me tourne vers vous, Florent Delaval, il y a des choses qui se préparent à l'avenir. Quel est le futur de la géolocalisation ?
Alors, on n'en est pas aux implants, c'est vrai. En revanche, ce qu'on dit, c'est-à-dire le partage du flux optique, nous on parlerait de caméra ou la prise de son audio, c'est des choses qui existent déjà dans les dispositifs, qui sont déjà permises, qui ne sont pas forcément toujours activées. Mais c'est vrai que ce dessin que nous fait Black Mirror commence à ressembler de plus en plus à ce qui est possible de faire aujourd'hui, avec les risques que ça cause. Je dirais que là, on était, enfin, c'est une métaphore quelque part dans Black Mirror. On dit, vous pourrez peut-être injecter quelque chose dans votre fille pour que ça aille mieux. En fait, aujourd'hui, on peut pas injecter quelque chose, mais il y a quelque chose d'un peu subreptice qui se passe en ayant cette forme de surveillance. Quelque part, on injecte l'idée qu'être surveillé, c'est normal. Et que finalement, le fait que ce soit pour le bien de l'enfant, etc., c'est quelque chose de tout à fait banal et acceptable socialement. Et cette idée, on peut la garder plus tard, quand on est grand, que finalement, surveiller, c'est bien, qu'être surveillé, c'est un état normal des choses. Et donc voilà, en termes de préparation de la société de demain, je pense que ça dit aussi quelque chose.
Thierry Delcourt, parmi les parents des enfants que vous recevez en cabinet, est-ce qu'il y a des attentes qui vont au-delà de la géolocalisation ?
Oui, je pense notamment à ce que j'ai vu tout récemment, c'est-à-dire que on est dans une situation, et pour rejoindre ce que disait Justine Atlan sur le collectif social, des parents qui me disaient on ne peut plus faire confiance ni à un professeur des écoles, ni à un animateur sportif, ni à un chauffeur de bus, puisque tous sont potentiellement des pervers et des dangereux. Et donc, y a l'idée pour eux qu'il faudrait encore renforcer quelque chose par rapport à ça, et qu'il y aurait finalement une géolocalisation et une surveillance finalement des individus qui sont en position de maîtrise par rapport à l'enfant, ou qui sont en position d'autorité par rapport à l'enfant. Donc ça, c'est un cap que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qui m'a un peu fait frémir, mais effectivement, comme n'importe qui peut être un pervers et quelqu'un qui passe à l'acte par rapport à un enfant, comment prévenir ça hein, et c'est compliqué.
Mais c'est une vraie question et on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que le risque de danger est plus présent aujourd'hui pour nos enfants ? Je vois lever les sourcils, Justine Atlan. Est-ce que le monde devient de plus en plus dangereux pour nos enfants aujourd'hui ? Est-ce que
ça vous semble-t-il justifié ? Je crois que toutes les études montrent que pas du tout, que dans un monde qui n'a jamais été aussi finalement sécure en réalité, alors évidemment, c'est l'humanité, il y a des guerres, il y a des choses comme ça, mais de façon cyclique, on a quand même atteint un niveau de sécurité personnel qui a rarement été atteint dans l'humanité. Donc après, il y a effectivement une information qui circule beaucoup plus, donc on est beaucoup plus au courant de tout ce qui se passe, y compris dans le monde. Il y a des réseaux sociaux, comme on l'a dit, qui ont un modèle économique qui de toute façon va nous pousser en plus toutes ces informations qui vont susciter chez nous beaucoup d'émotions négatives, la peur, la crainte, la colère, etc. Donc on a une illusion de beaucoup d'insécurité, ce qui effectivement peut générer un stress chez certains parents qui sont déjà anxieux, parce que c'est quand même sur cela que ça va le plus fonctionner, et qui vont avoir un réflexe de vouloir maîtriser autant que faire se peut, et contrôler, et pour qui ces outils vont remplir cette fonction mal, comme on l'a expliqué depuis le début, mais vont leur donner cette vision-là. Mais non, le monde n'est pas plus insécure qu'avant, statistiquement, loin de là, en tout cas.
En tout cas, statistiquement, il y a de plus en plus de divorces, par contre, ça c'est un fait, et c'est vrai que c'est intéressant, non, c'est parce que je vais rebondir sur le message d'un auditeur qui nous a laissé un message audio, Jean-Claude, qui bien rebondit justement. Et en préparant cette émission, c'est vrai que j'ai constaté ça, que c'était quelque chose qui revenait, des parents séparés quand les enfants sont chez l'un et pas chez l'autre. La géolocalisation peut être aussi un vrai questionnement. On écoute Jean-Claude.
Moi, je suis papa séparé de deux filles, dont une qui rentre au collège, donc elle a 11 ans. Et au même âge, j'habitais en campagne, on allait à l'épicerie, on allait à la boulangerie seul. Et avec tout ce qu'on entend, des enfants qui se font kidnapper, tout ça, j'aimerais que mes enfants puissent faire la même chose que moi. J'avoue que j'ai pensé à des choses style AirTag, en aucun cas pour savoir en permanence ce qu'elle fait.
Voilà, ici encore un parent qui y pense ici, et cette autre auditrice Amélie qui témoigne en tant qu'enseignante qu'elle pense qu'il faut laisser la place à la bêtise, entre guillemets, et puis aussi à l'innocence. Et l'innocence, c'est aussi cette liberté. Ça, c'est un vrai sujet. J'aimerais vous entendre à ce sujet, Thierry Delcourt.
Quoi dire, je suis un peu sec par rapport à ça.
Sec par, de quelle manière? Vous n'avez pas compris ma question? Ou alors vous ne savez pas quoi réagir?
Comment réagir? Répétez, oui.
Quelle place pour l'innocence, pour la liberté, pour la bêtise, pour l'erreur peut-être?
Oui, mais quand les choses sont arrivées, c'est dramatique. Donc effectivement, ce que je vous disais au début, moi en tant que pédopsychiatre, je reçois des enfants et des parents qui ont vécu justement des situations plus ou moins dramatiques. Et quand c'est arrivé, c'est terrible. Alors qu'effectivement, on maintienne, on préserve une innocence, mais j'aime bien la notion de filou dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, comment préserver chez l'enfant cette dimension de mensonges, de filouterie, enfin de tout ce qui fait qu'on construit au fur et à mesure ce qui va constituer l'adolescence, c'est-à-dire qu'on échappe plus ou moins à son parent dans sa construction, quoi.
Yann Bruna, va-t-on créer une génération de jeunes adultes complètement dépendants de la technologie pour se sentir en sécurité ?
Alors, c'est une très bonne question, puisque c'est vrai, comme je le disais en introduction, la géolocalisation n'est qu'une des formes de surveillance qui sont aujourd'hui assez massivement utilisées, comme vous le rappeliez avec l'enquête de l'Observatoire numérique de la parentalité. En tout cas, dans cette génération, oui, il y a des questions qui doivent se poser. Par exemple, cette surveillance, elle a quand même une dimension plutôt disruptive, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Je prends l'exemple d'un jeune couple d'ados. J'ai pu interroger, le garçon qui m'a dit voilà, ma copine a voulu, elle m'a obligé à activer la géolocalisation en temps réel, et la première chose qu'elle m'a dit une fois qu'on a activé cette technologie, c'est, je cite, voilà, maintenant on ne peut plus se mentir. Donc il y a quand même quelque chose autour de la fabrication du mensonge, autour de l'avant et de l'après, et ça interroge pourquoi ? Parce que je pense que c'est un positionnement intéressant. C'est ici la plateforme qui est gratifiée d'une capacité de démonstration. La donnée affichée, elle possède une finalité probatoire qui consiste à dire « tu étais là et il n'y a pas de place, ou très peu en tout cas, à la discussion. Ce qui est révélé est porteur d'une certaine vérité » et peut amener, effectivement, comme nous l'avions dit plus tôt, à une forme de conflit qui nécessite une tentative de contextualisation, de négociation. Mais dans tous les cas, celui qui a raison, c'est l'outil qui a une capacité démonstrative. Et pour la suite, si on doit penser justement à l'après, effectivement, ce qui peut être assez inquiétant, c'est de voir dans quel monde nous évoluons, dans ces circonstances assez particulières, où la surveillance se développe, mais où surtout il se construit petit à petit une certaine forme d'accoutumance à la surveillance. Et quand elle manque, alors il manque un marqueur attentionnel, pardon, il manque un certain besoin de sécurité qui n'est plus pourvu, mais en tout cas il manque quelque chose. Et c'est ça qui est interrogé peut-être, c'est ce qu'il manque lorsque nous désactivons ces technologies. Voilà. Alors, évidemment, on parle depuis le début de l'émission, je finis juste là-dessus, des parents, d'un point de vue sociologique. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, dans le témoignage que vous avez passé, c'est un père de famille qui dit « moi, je suis en campagne », parce que finalement, c'est très localisé. Il y a une problématique spatiale derrière. Il ne se joue pas du tout la même chose dans les espaces ruraux, dans les espaces périurbains, dans les espaces urbains, et plus précisément dans les espaces urbains politiques de la ville, dans des quartiers défavorisés. Ce ne sont pas exactement les mêmes problématiques. problématique. Et de la même façon, ce ne sont pas tous les parents. Nous parlons des parents, mais il y a une grande hétérogénéité, bien entendu. Par exemple, les parents qui s'interrogent davantage, ce sont les parents issus des classes supérieures avec des capitaux culturels élevés qui ont besoin de chiffres, de savoir où ils sont, s'ils doivent le faire, s'ils sont des marginaux, qui se posent des questions avec d'autres parents d'élèves. D'autres s'en posent beaucoup moins et ont des pratiques qu'ils imposent et qui sont beaucoup moins négociables.
Et vous le voyez, ce débat est loin d'être terminé. Si vous saviez le nombre de retranscriptions de messages audio que j'ai sur la table, mais alors là, vous êtes vraiment extrêmement nombreux à avoir réagi à ce sujet. Eh bien, cette géolocalisation, cet outil, peut-être qu'il n'est ni bon ni mauvais en soi, mais à manier certainement avec mesure. Protéger, oui, contrôler peut-être, éduquer toujours. Comment accompagner nos enfants dans un monde incertain sans céder à la peur, sans renoncer à la liberté? Peut-être que la clé n'est pas dans l'outil, mais dans la manière dont on en parle, dont on s'en sert, et surtout dans le lien qu'on tisse avec eux. Merci de nous avoir suivis pour ce débat de midi. Merci aux invités Justine Atlan, Florent Delaval. Merci à tous les deux, vous étiez avec moi en plateau. Merci également à Thierry Delcourt et à Yann Brunat qui étaient au téléphone avec nous. Demain, nous ferons tomber le t-shirt ou non. Faut-il interdire le torse nu dans les lieux festifs? Vous pouvez déjà nous donner votre avis, hein, dès maintenant au 01 45 24 7000.